I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va jeter notre dévolu sur Made in China, un film de Julien Abraham avec Frédéric Chaud et Mehdi Sadoun. À mes côtés pour cet épisode qui va beaucoup parler du 13e arrondissement de Paris, j'ai à mes côtés deux Bellevillois. Et oui, vous êtes deux de Belleville tous les deux. L'experte Perrine Kenson.
Salut Daniel.
Et un nouveau venu dans la team, François Houlac.
Salut Daniel.
Que des numéros 10 dans ma team.
J'ai une idée, tu fais le chinois.
Quoi ?
Tu m'écoutes, tu me suis.
Ça va messieurs, pas trop pressé ?
Franchement, c'est pas de ma faute, c'est mon moniteur, je comprends rien à ce qu'il me raconte moi. Vous disiez quoi ? Vous disiez couloir droite, c'est ça ?
Non, c'est monsieur Hassan, moi j'ai dit coup droit, pas coup droit, c'est pour ça. Mais lui, trop mauvais là, jamais il est comme lui, c'est tout pourri.
Vous comprenez quelque chose, vous ? Comment vous voulez que j'ai mon permis, moi ? Ça fait trois fois que je passe avec lui, en plus.
Ah, c'est ma faute, non, non ? Mais c'est pas ma faute, lui, ton bruit, on m'élève. Moi, je le conseille mieux pour le métro, c'est pour ça.
C'est pour tard.
C'est horrible. C'est horrible. Voilà, il y a un vrai problème avec ce film, et ce problème, c'est, je crois qu'il est d'ordre commercial. C'est-à-dire que ce film a été vendu avec une affiche avec, qui reprend deux héros, protagonistes, je ne peux pas dire héros, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et donc, tout le monde a cru, moi y compris, j'ai cru que c'était un spin-off, en fait. J'ai cru que Frédéric Chaud et Mehdi Sadoun reprenaient leur personnage de beau-fils, pote, de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, pour faire un spin-off autour de la communauté chinoise. Ce qui, de fait, m'a
enduit d'erreur.
Plus que ça, ça m'a crispé. Ça m'a vraiment crispé parce que je deux fois la même le même film générique un peu sur le racisme et tout à la mode Christian Clavier, je pouvais pas cette année, pas si tôt. Et en fait, c'est pas du tout ça, et c'est ça qui est particulier avec ce film, c'est que il commence dès le début par cette vanne-là, par la vanne du chinois tout ce qu'on a déjà vu. Et alors, on va le comprendre après, c'est aussi pour mieux déconstruire ce film. Perrine, qu'est-ce que t'en as pensé globalement de ce Made in China ?
Et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas que l'affiche qui est en fait un peu trompeuse, il y a aussi le fait que ça soit écrit comédie en fait. C'est un peu trompeur parce que je ne trouve pas que Made in China soit particulièrement une grosse comédie. Quoi. C'est pas du tout, au contraire, il y a vraiment une tendresse. Je crois que j'ai l'impression de reprendre MDR avec des films tendres en fait. Moi déjà, il y avait le film avec l'autre la dernière fois, Mathilde Seigné, où pareil, je dis c'est pas drôle mais c'est tendre. Et on reste sur une bonne lignée tendresse sur Made in China. En fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, au lieu de rentrer dans la blague absolue avec tous les clichés sur les Asiatiques, il les fait à travers le personnage de Mehdi Sadoun. Donc Mehdi Sadoun passe pour un gentil benêt heureux qui est notre débiteur officiel de conneries dans le film. D'ailleurs, c'est simple. La seule chose qu'on lui dit dans le film, c'est ferme ta gueule, quoi. Donc tout le long. Et l'idée, c'est que on passe. Le film est très didactique, très pédagogue en fait, sur comment on déconstruit tous les clichés, tous les a priori et tout ce qu'on imagine, on fantasme autour de la communauté asiatique, notamment à Paris, notamment dans le 13e. Et ça, je trouve ça très intéressant, pour le coup, parce qu'il le fait avec beaucoup de, je pense, sincérité, et on sent que le film de Frédéric Chaud, quand il l'écrit, c'est quelque chose qui doit lui tenir vraiment à cœur. Après, il le fait aussi avec un non-sens de l'écriture et un non-sens du rythme et du cinéma. C'est presque un film à thèse, en fait, j'ai envie de dire. Et il manque un peu, il manque un peu de cinéma dans son film, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Ça manque vraiment de lâcher prise, en fait. Tu dis, tu pouvais te lâcher un tout petit peu plus. Je comprends que tu ne veux pas faire de conneries, que tu veux faire un truc qui soit très honnête vis-à-vis de la communauté asiatique, et en particulier chinoise dans ce cas-là. Et c'est bien. Mais résultat, derrière, ça ne démarre jamais vraiment, je trouve.
François, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Bah, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Perrine, et pour aller un peu dans le sens de la sincérité du film, c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles intentions, de bonnes intentions, et on peut pas dire que le film part d'un mauvais sentiment. Ça, je suis assez d'accord. Ensuite, je trouve qu'il y a certaines compromissions dans le film, justement, par rapport à la façon dont il dépeint la communauté asiatique, qui sont assez typiques du cinéma français lorsqu'il s'agit de parler de communautarisme, entre guillemets, de race en général. Et moi, le truc qui m'a vraiment frappé, bon, déjà, oui, le fait de confier tous les ressorts comiques du film, parce que c'est vrai que c'est plus un drame qu'une comédie. Le fait de confier tous les ressorts comiques du film uniquement à Mehdi Sadoun, c'est un peu comme donner une mine antipersonnelle à un gamin de 10 ans. Genre, tu confies pas un objet comme ça dangereux à quelqu'un qui fait n'importe quoi avec. Bon, ça, c'était un peu gênant. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la communauté asiatique, je trouve que il y a quand même une place vachement centrale de la blanchité dans le film, et ça, c'est vraiment très français, quoi. C'est-à-dire que, ok, on a un film sur la communauté asiatique avec un héros asiatique, mais il faut que le héros s'appelle François. Il faut que, bon, ok, c'est un asiatique, mais en fait, il parle pas la langue, il est un peu déconnecté de son origine. Genre, le mec, il sait même pas ce que c'est qu'un bubble tea. Excusez-moi, ça fait un peu cliché de dire comme ça, mais même moi, qui suis pas du tout asiatique, je suis juste parisien, je sais ce que c'est un bubble tea, en fait.
C'est super bon.
Alors, et en plus, c'est super bon. Il faut qu'il soit en couple avec une femme blanche, il faut que vous voyez à tout ce truc-là. Et évidemment, le pote, là, Bruno, donc Mehdi Sadoun, il s'incruste absolument partout. Et donc,
il peut se taper toutes les filles de sa famille.
Il est trop gênant.
Il est un peu hashtag gêne.
Ce que je veux dire, c'est qu'on se demande à qui le film s'adresse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait ces espèces de compromis avec l'identité française. Et ok, on vous montre un asiatique, mais n'ayez pas peur, il parle pas chinois, et il est en fait, il fait partie des nôtres, il s'appelle François, et c'est un asiatique bon teint.
Je suis pas tout à fait d'accord sur le côté François, parce que clairement on comprend que c'était aussi une volonté de la famille qui donc est arrivée en France. Il y a eu une envie de je trouve pas le mot que je cherche,
d'intégration peut-être.
Comment?
D'intégration,
voilà,
peut-être.
Une envie d'intégration au moment donné, ou à ce moment-là, en arrivant, en fait. Donc l'idée de l'appeler François. Puis d'ailleurs, tout le long, il l'appelle autrement, en fait. La famille asiatique, enfin, sa famille chinoise, l'appelle autrement. Donc on sent quand même qu'il y avait une volonté d'intégration au moment d'arriver. Donc ça fait aussi, c'est aussi un discours, en fait,
c'est
de raconter ça.
C'est une forme de réalisme aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'asiatiques de deuxième génération, de chinois de deuxième génération qui sont...
Voilà, mais qui prennent, et puis voilà, même de plusieurs communautés qui prennent des noms... très français, j'ai envie de dire. Ouais,
ouais. Et il y a un truc qui me frappe aussi, c'est que vous parlez de cette francisation, c'est que François, donc Frédéric Chaud, tu regardes son environnement, c'est celui d'un ultra bourgeois je ne sais pas quel arrondissement, mais on est sur un appart à 3000 euros.
On est dans le 11e, Bobo. Je suis au chômage, mais je me paye un bel appart quand même.
On est sur un appart à 2005 par mois.
Il y a des photographes freelance, mais t'inquiète que.
Il va me donner ses plans, hein, parce que je suis intéressé en tant que freelance.
Ouais, pareil.
Ah, on est tous freelance à cette table. On est à chaque fois que je vois un appart comme ça, je suis jaloux. Et donc, du coup, ils le mettent complètement sur une sphère complètement différente. Et c'est pour faire un peu le clash des civilisations, alors que le 13e, c'est pas un si grand clash des civilisations. Après, il y a un truc que j'ai remarqué dans ce film-là, à part sa famille. J'ai bien aimé la manière dont sa famille est mise en scène, donc avec des personnages assez atypiques, qui sont tous chinois et qui essayent pas de faire justement... pas faire les Chinois, justement, mais qui sont Chinois. Je trouve que, en fait, finalement, le quartier est assez bien mis en valeur. Il y a des... Avenue de Choisy, pour avoir beaucoup fréquenté Avenue de Choisy, tu reconnais la fameuse galerie marchande sur Avenue de Choisy. Genre, il y avait des moments qui me sont un peu chers en tant que visiteur du 13e, parce que j'avais des amis là-bas et j'y allais souvent, et parce qu'il y avait les petites boutiques dans ces galeries. Je trouvais que le film a justement une espèce de grosse tendresse avec les Chinois.
Le film rend justice vraiment au quartier. Je suis pas originaire du 13e, mais il est très esthétique. Et
pas vraiment justement aux Français du film, c'est-à-dire Mehdi Sadoun, qui à un moment veut carrément se faire passer pour un noir, et ils font
mais tu sais que Mehdi Sadoun s'est fait réellement passer pour un noir. Je sais pas si vous avez vu La Deuxième Étoile de Lucien Jean-Baptiste. Mehdi Sadoun joue un martiniquais pendant tout le film. Mehdi Sadoun, il parle comme ça, etc., et puis il fait la martiniquais pendant tout le film.
Je rigole, mais
c'est
vrai, pas
super gênant. C'est le rôle le plus gênant. Et donc quand le mec il a dit, en plus il y avait trois Chinois devant moi dans la salle, donc c'est marrant, j'observais leur réaction, enfin dans le noir, mais j'observais quand même. Et mais bref, mais quand Mehdi Sadoun dans le film, là, pendant le dîner avec la tante Fa, quand il dit mais elle aime bien les Renois, etc., et qu'il fait mais t'es pas Renois, il fait ah oui, c'est vrai. J'étais en mode mais c'est fait exprès, c'est genre le cinématique universe de Mehdi Sadoun.
Tout se répond, en fait, tout se répond, vous le savez pas, mais tout se répond.
Mais je me demande quelle est sa part d'implication, parce que soit on lui dit écoute, voilà le personnage, et fais-en des caisses, soit je sais pas comment est-ce qu'il l'incarne, parce que je trouve que justement les autres asiatiques Frédéric Cho, justement, il s'écarte très très vite de ça, quoi. Il fait l'asiatique au début et juste à début de cette scène, et tu sens vraiment dans son dialogue, il dit j'en ai ras-le-bol de faire ça, et il aime pas faire ça, et dès la deuxième scène, il arrive et on le prend pour un livreur de sushis, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et je trouvais que vraiment tu sentais son ras-le-bol. Vraiment, s'il y a un truc, un message que le film essaie de faire passer, c'est quand même ça. Je crois qu'on va s'écouter une petite vanne, et je crois que Mehdi Sadoun est dans le coup.
Ah.
Tu devrais reprendre des cours de chinois rien que pour mieux comprendre ton accent, toi.
C'est toi, l'ami de Fion ?
De qui ?
De Fion.
Tu peux m'expliquer pourquoi tu t'appelles Fion ?
Oui.
Ça veut dire héros. En français, ça veut dire autre chose.
T'es réconcilié avec ton père ? Tu lui as dit que t'allais le papa ?
Mais vite, je veux pas le forcer non plus. On pourrait peut-être attendre que le bébé y naisse, tu vois.
Va voir ton père, pense au bébé.
Mais t'as peur de quoi ? Mais ça va bien se passer.
Papa, j'ai quelque chose à te dire.
T'as un problème avec la nourriture de ma maman ?
Je me demandais juste... Est-ce que c'était quoi ?
C'est Yuki.
C'est quoi Yuki ?
C'est du chien.
Bon, j'ai pas de chien, c'est des légendes, c'est des conneries.
Parce qu'en plus, il est vraiment très très teubé, hein, genre.
Ouais.
Il est gênant, il est teubé. Et alors... sur toutes les filles, quoi. Toutes les filles, il essaye. Évidemment, il va essayer.
Ça n'a rien à voir avec teubé ou pas teubé, hein, finalement.
Non, mais il essaye comme un débile. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que, il va essayer de pécho Mylène Japanoï.
Ce qui t'a rendu triste, hein.
Non, mais écoute, je trouve qu'on voit pas assez Mylène Japanoï. J'ai été trop.
Je connaissais pas cette actrice.
J'étais
cool, ouais.
Trop ravi de la revoir. Enfin, vraiment, ça m'a fait plaisir. Genre, vraiment, c'est.
Elle joue dans quoi, normalement? Enfin, dans quoi elle a joué de.
Martyr. Je me souviens de Martyr.
Martyr, c'est vrai.
C'est pas Xavier.
C'est l'autre. Elle jouait dans Gainsbourg. La vie. Non, mais vraiment, c'est une actrice vraiment sous-utilisée du cinéma français. Et ça m'a fait plaisir de la voir, même si elle se fait complètement harceler par Mehdi Sadoun et séduire par Mehdi Sadoun de manière.
Non, mais.
Débile!
Quand je te parle de centralité de la blanchité, c'est que même dans cette scène.
Je t'entends, mon ami.
Que le gars monte sur scène pour chanter son truc en faux chinois, là, et choper la meuf à la fin, mais c'est pas possible, il peut pas rester à leur place des fois, tu sais. Putain!
Il y a quand même une personne qui met vraiment du sien. Je pense qu'il faut lui tirer à chapeau pour toute l'œuvre de sa vie. C'est Clémentine Serrier. Clémentine Serrier.
C'est la championne de la diversité. Elle a fait un morceau de reggae sur YouTube, c'est bon.
Franchement, Clémentine Serrier, je sais pas comment elle fait. Elle a l'air toujours, dans tous ses rôles, elle a l'air sympa. Elle a l'air d'être on fire, et je voulais dire psychotrope, hein, psychotrope level, et en plus elle est charmante, mais je sais pas comment elle fait, genre est-ce que tu mets une pièce et elle démarre et qu'est-ce qui se passe.
Elle est chouette,
elle est adorable,
c'est vrai.
Et mais... tu te demandes comment ça se passe, pas pourquoi tu la vois pas presque plus par rapport à sa famille, à Frédéric Cho.
Je voulais juste revenir vis-à-vis de François par rapport à... Tu dis que la blanchité est centrale, mais en même temps, c'est assez logique par rapport au film, en fait. C'est-à-dire que le personnage de Frédéric Cho, François, c'est un personnage qui est contre, en fait, sa famille. Il est parti de son quartier. Il s'est engueulé avec son père. Il est parti de son quartier où il avait une sensation d'enfermement. À plusieurs moments, il le répète. D'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi Mylène Japanoï, elle allait rester. Il dit, enfin, tu ne pouvais pas sortir un petit peu de ton truc. Et donc, il a finalement, c'est quelqu'un qui, pendant 10 ans, a grandi contre ses origines asiatiques. Donc, finalement, il s'est rapproché d'une autre, de la culture, enfin, la blanchité, je ne sais pas comment le formuler, mais en tout cas, il s'est rapproché plus d'un autre groupe de personnes. Et finalement, c'est un personnage qui, tout le long du film, va réapprendre à réattacher, à retrouver ses attaches, à rebrancher les ceintures, là, comme ça, et à concilier deux parties de lui-même. Et c'est ça que je trouve assez joli. Je trouve que finalement, les personnages blancs sont pas très, très centraux, à part Mehdi qu'on voit tout le temps.
C'est pas les personnages que je trouve centraux, en fait. C'est plutôt le prisme par lequel, tu vois.
Mais je suis pas si étonnée, si tu veux rendre un truc pédagogue sur les gens qui ont des clichés sur les Asiatiques, parce que c'est pas les Asiatiques qui ont des clichés sur les Asiatiques. C'est justement les Blancs, les autres.
Mais je pense qu'on est encore loin de, par exemple, Crazy Rich Asians, tu vois. On verra jamais d'Asiatiques rester entre eux à l'écran et se raconter.
Je pense que il faut un prisme d'entrée, et je trouve que déjà un film comme ça, dans le paysage français actuel,
il a
le mérite d'exister. Et encore une fois, je voudrais juste qu'il renforce un tout petit peu son écriture, parce que voilà, on est un petit peu trop pédagogue là quand même.
Son écriture, et j'ai envie de dire aussi, qu'il me pardonne, parce qu'il a l'air vraiment adorable, et en fait, c'est vraiment, tu sens qu'il met du cœur.
Il est beau gosse, excusez-moi. Mais
il est putain
gosse.
De ouf.
Il est pardon.
Il est bégé, il faut le dire.
Non, mais j'avais déjà un petit crush dans le Jamel Comedy Club, mais là, on est sur autre chose quand même.
Il est très très beau, mais son acting drama. Il est, oui. Il faut, genre.
Quand c'est du drama, on n'est plus trop là, quoi.
Bah, tu parles du Jamel Comedy Club, c'est qu'en fait, tous ces mecs-là, en fait, jouent très bien la comédie, en fait. Et dès qu'il s'agit de faire, d'avoir une corde un peu sensible et un peu de justesse, tu sens qu'il ne sait pas trop où se placer dans la tristesse.
Je peux dire un truc intéressant par rapport à ça et par rapport aux capacités d'acting, justement, des acteurs.
Shoot.
En fait, je suis allé voir le spectacle d'Aziz Ansari il y a pas longtemps là à l'Olympia, c'était super cool. Et il raconte un truc marrant à un moment à propos justement des acteurs sud-asiatiques dans les séries et dans le cinéma américain. Il dit en fait le problème c'est que quand on veut caster, c'est une sorte de cercle vicieux. Quand on veut caster un, par exemple, lui pour jouer ses propres parents dans Master of None, il a dû justement engager ses parents parce qu'ils ne trouvaient pas d'acteurs d'un certain âge, vous voyez, qui pouvaient incarner ces personnages-là. Ils ne trouvaient pas d'acteurs vraiment bons, confirmés et puis le niveau qu'il faut et avec le niveau qu'il faut pour jouer sur une série Netflix. Et le truc en fait, c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les acteurs, les actrices de couleur, on va dire, dans le cinéma américain, forcément, t'as pas beaucoup de rôles. Si t'as pas beaucoup de rôles, tu peux pas justement engranger des expériences. Il disait, moi, si j'avais été blanc, j'avais voulu des acteurs pour jouer mes parents, des personnes blanches d'un certain âge, etc., qui peuvent jouer le rôle, j'en ai retrouvé 13 à la douzaine. Le problème, c'est que quand il s'agit d'autres communautés, bah, il y en a 3 qui se battent en duel, qui ont aucun rôle, et du coup, ils ont une courbe de progression, limitée.
C'est vrai, ouais. Et tu fais bien de le dire parce que je lisais les interviews et ils disaient qu'ils avaient justement eu énormément de mal à recruter et que tous les acteurs sont professionnels, tous les asiatiques dans le film sont professionnels, mais ils n'ont pas énormément de choix pour la
sensation de jamais vu en fait pour la grand-mère, en les voyant, donc c'est quand même assez étonnant.
Qui est géniale, elle est vraiment adorable, elle est choupie, la
grand-mère. Super, tant de fat.
Et la grand-mère, il disait que ils avaient choix entre 3 actrices grand maximum, alors que pour les Mehdi Sadoun, pour le rôle qu'il fait, il y a plein d'autres comédiens que tu potentiels, quoi. Là, Mehdi Sadoun, clairement, il le joue Gilles Lelouch. Je crois que pendant tout le film, je me suis dit, ah, en fait, c'est Gilles Lelouch.
Et ouais, pourquoi Mehdi Sadoun, il s'appelle Bruno dans ce cas-là? S'il voulait faire un acteur, un Bruno, mais prenez un Bruno, prenez pas Mehdi Sadoun. Enfin.
Je sais pas. Je pense qu'on
est sur la même dichotomie que l'autre, hein. Ouais. Même profil pour Mehdi Sadoun.
Mais Périne, t'as dit un truc super intéressant sur le fait que le personnage soit en quelque sorte déconnecté de ses origines. C'est vrai que moi, du coup, d'un point de vue, on va dire, politique, ça me gêne. Mais par contre, c'est vrai que dans la logique du récit, c'était super cool. Parce que cette espèce de rapport, on va dire, distant à ses propres racines, je pense que c'est un truc sur lequel beaucoup d'enfants d'immigrés en France peuvent se reconnaître. Vraiment, je pense que n'importe qui, que tu sois sénégalais ou algérien, il suffit que tu connais, souvent tu connais le bled que par le prisme des vacances que t'as passées ou parfois des souvenirs de tes parents, parce que tout le monde n'a pas le loisir de rentrer au bled tous les ans. Et donc t'as ce rapport un peu déconnecté à la langue, ce rapport déconnecté un peu à la culture, etc. Et je trouvais que c'était plutôt bien dépeint et avec beaucoup de tendresse, comme tu disais. Ouais.
Je crois que j'ai jamais été aussi ému par MDR, moi qui est fils d'immigré russe, tu sais, tu me parles, ouais. Ça me parle très fort.
Ouais, mais je me suis reconnu là-dedans, c'est par rapport à mon rapport au créole et tout, même si bon, ouais, c'est différent.
Et bah écoute, il y a une tradition ici, c'est on va dire combien on paye pour cette comédie. Perrine, combien tu mets sur la table?
Je vais mettre un petit tarif UGC Bercy étudiant à 4 euros, là, ou je sais pas quoi, ou 3,60
euros. Alors, je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas étudiant.
Je sais plus, mais il y en a un qui est plutôt bien pratique, parce que je me dis que voilà, c'est un petit. Justement, j'aimerais bien que des plus jeunes aillent voir ça, parce que pour le coup, je trouve le film n'a pas, pour moi, d'un pur intérêt cinématographique, il est assez pauvre, mais d'un point de vue purement pédagogue et didactique, je le trouve intéressant et j'aimerais bien que des gens aillent le voir.
Et toi? Il faut t'engager, il faut engager ton porte-monnaie.
Ouais, alors sur une échelle de 1 à une séance en 4D IMAX, voilà. Au pâté de la place de Clichy.
Bon, ouais. C'est plus cher.
Je mettrais environ, je mettrais 5-6 euros. Allez, je devrais mettre moins que ce que tu as mis, Perrine, mais là, je vais mettre 5-6 euros parce que c'est vrai qu'il a le mérite d'exister, ce film, et que franchement, par rapport à ce à quoi je m'attendais.
Ouais, moi aussi, il y a aussi ça, il y a l'effet de ouais, voilà. Ouf, c'était pas ça.
Ouais, voilà, ou c'était pas le spin-off de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais. Franchement, ouais, 5-6 euros parce que c'est quand même un truc un peu niais et ultra didactique, comme tu dis, mais il faut que les Chinois de France aient aussi droit à leur propre comédie niaise et didactique, en fait. Ouais. Et on a droit aussi à l'unité, nous, les minorités, quoi.
Ouais. Et moi, j'allais mettre exactement la même somme, 6, parce que, ouais. Pour ces mêmes raisons, parce que ce film mérite d'exister, parce que tu sens qu'il a été fait surtout avec cœur. Et alors, moi, j'aime pas du tout le principe de sincérité, mais là.
Moi non plus, l'enfer est pavé, etc.
Voilà. Mais là, en l'occurrence, il est non seulement la sincérité, mais aussi d'une certaine forme d'efficacité qui nous a fait éviter tous les clichés assez vite en fait. Et du coup, ça m'a redonné envie d'aller dans le 13e en fait.
Ça t'a donné envie de manger
et
les mêmes, quoi.
Le cliché, il est là.
Non, mais ça fait un bout de temps que j'ai pas mis les pieds parce que moi, je vais surtout à Porte d'Italie où habite mon ami Max. Mais du coup, j'esquive le 13e et j'ai envie juste d'y marcher.
J'aimerais dire que si j'avais été dans le chip, j'aurais été beaucoup moins gentil avec ce film.
Bah écoute, tu verras, à MDR, ça dépend du jour.
J'aurais mis 2 euros.
Alors, c'est le moment de recommander. Puisqu'on recommande un film ou une série ou ce qu'on veut qui a un rapport ou non avec, avec ce qu'on a vu. Périne, à toi.
Moi, j'étais sur le personnage de Mehdi Sadoun. Je me suis dit que quitte à faire un grand bonnet, un petit peu comme ça, qui enfile les conneries en termes de clichés, j'aurais aimé qu'on pousse le bouchon un peu plus loin, qu'on aille dans l'absurde. Et j'ai pensé à OSS 117. Et je me suis dit qu'un Hubert Bonnissart de la Batte qui, pour le coup, enfile sérieusement de la connerie à la seconde, mais au moins ça me fait rire. Et là,
avec un asiatique dont il se moque de l'accent.
Ah bah, plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois, à plusieurs
c'est
reprises.
C'est une phase de quetch, c'est une balade flambée, voilà. Un vrai flambé.
Mais horrible. Moi, je trouve que quand on va dans cet absurde-là, quand on pousse jusque-là, et bah, c'est, ça rend le truc encore plus drôle, pour le coup.
D'accord. Est-ce que je peux te recommander quelque chose d'audiovisuel? Je
peux ouais, non, bien sûr. Ou... YouTube, musique, ce que tu veux. Hein.
D'accord. Alors, il y a un album que j'ai bien aimé. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est je suis vraiment
la
désolé.
La mafia tressée.
Non, ça n'a vraiment rien à voir. Mais je vais recommander deux trucs, en fait. Ok. Non, je vais recommander un truc. On a parlé de Made in China. Je vais vous recommander un groupe de rap, justement, originaire de Chine, que je crois qu'on entend au début du film, qui s'appelle Higher Brothers, qui font partie d'une sorte de collectif, à la fois, un label à la fois visuel. Et puis une maison, ils font un peu tout à la fois. Il s'appelle 88 Rising, et en gros c'est une sorte d'écurie qui produit des tas d'artistes de rap et de R&B asiatiques, mais à destination du marché mondial, donc des gens comme Rich Brian, des gens comme Higher Brothers et d'autres artistes super intéressants, souvent des asiatiques mais qui rappent soit dans leur langue d'origine, soit en anglais, enfin souvent les deux, etc. Et bref, les Higher Brothers, c'est une sorte de trio, on les appelle souvent les Migos chinois, et c'est super intéressant parce que c'est intéressant de voir comment la culture hip-hop se morphe selon le pays qui l'accueille et va s'adapter aux références locales. Et Higher Brothers, c'est vachement cool, c'est turn up et c'est dans l'ambiance du coup de l'épisode, je crois.
Ah, ça me donne envie de
découvrir
ça. Essayez, franchement, c'est cool.
Et pour ma part, alors j'étais en train de réfléchir à une comédie avec des Asiatiques et c'est vraiment très compliqué parce que tu vois, tu sors de Crazy Rich Asians qui est un produit marketé pour les Asiatiques des États-Unis, donc sortir de ça, c'est assez compliqué. Alors du coup, moi je me transporte en Asie, moi je pense à Stephen Chow, je pense à Bon Baiser de Pékin, que j'aime beaucoup, tu vois, je pense au Festin chinois, tu vois, je pense à ces classiques. Et en fait, je me suis dit que ce film me faisait penser à un autre film qui n'est pas du tout une comédie, qui s'appelle La Saveur des Ramen, qui est sorti l'année dernière. Et c'est l'histoire d'un mec qui va essayer de comprendre ses origines à travers la bouffe, puisque lui, il est japonais,
ouais.
Et il retourne dans le pays de sa mère qui est Singapour, et il va complètement affronter le rejet de sa famille parce qu'évidemment les Japonais n'ont pas été très réglo pendant la guerre, et du coup il porte ça en lui, il porte ça dans son ADN, mais en même temps lui il va essayer de avoir le ressouvenir de ses parents en essayant de comprendre la cuisine des ramen, la cuisine de la soupe de nouilles. Et c'est un film d'Eric Koo, un réalisateur extraordinaire, je pèse mes mots, un réalisateur singapourois. Et c'est un film qui me fait chialer, mais genre je vois flou à partir du premier tiers.
Tu pleures et t'as faim en même temps, c'est un truc super chelou en fait. Ton corps il surréagit à tout, quoi.
C'est terrifiant. Et voilà, je vous recommande La Saveur des ramen, c'est vraiment le film auquel ce film m'a fait penser. Je pense que le cinéma français mériterait d'avoir ce genre de film qui rediscute et qui fait penser aux origines de tous les gens qui sont dans cette ère. Et il y a vraiment un truc très frappant, et c'est pour ça que ce film me touche en fait. C'est parce qu'il m'a fait penser au Saveur des Ramen.
Tu le vends vachement bien, Raymond, puisqu'il adore la culture japonaise depuis longtemps.
Je te prête le DVD sans aucun problème, je l'ai en DVD. Remerciements à Quentin, le cuistot de MDR. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes nos applis dédiées, SoundCloud et compagnie. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, car c'est ça qui fait vivre ce podcast. Il faut faire savoir que MDR est revenu. La semaine prochaine, on va se retrouver avec une comédie. Est-ce qu'il n'y aurait pas Christian Clavier quelque part au bout du tunnel? Je ne sais pas.
On s'en lasse pas.
On vous dit à la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.